Oh là là. Mais ouais.
On est là-dedans, là. On est là-dedans, là. Philippe Lemieux, c'est Star Wars qu'on entend.
Oui.
T'es allé voir l'ascension de Skywalker.
Oui.
En avant-première. En avant-première.
En visionnement de presse, en fait.
Visionnement de presse, littéralement.
Wow. Oui.
Et là, je regardais mon calendrier de l'avant. On est à 7 jours de Noël. C'est donc l'occasion de rendre hommage au créateur. Je parle bien sûr de George Lucas. Alors, je pense que c'est important lorsqu'un nouveau film de Star Wars, surtout celui qui termine finalement l'histoire des Skywalker, là, on est au épisode 9 avec ce film-ci, de revenir sur le film original, de se souvenir à quel point c'était révolutionnaire, parce qu'on l'oublie 42 ans après. À quel point ce film-là a changé des choses.
Il a changé le cinéma complet.
On peut dresser une liste des meilleurs films de tous les temps, ça c'est une chose, mais dresser une liste des films les plus influents ou qui ont changé les choses dans l'histoire du cinéma, je pense que Star Wars serait au top de la liste certainement. Mm. Puis, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ça commence avec un accident de voiture, tout ça.
Mais voyons.
Parce qu'un jeune George Lucas, en fait, était destiné à être pilote de course. Lui, ce qu'il aimait, c'est la vitesse, les voitures. C'était sa passion première, pas du tout le cinéma. Et le 12 juin 1962, à bord de sa Fiat Bianchina blanche, il va se faire heurter par un autre conducteur. Il roulait évidemment très vite. Et son véhicule va venir s'enrober autour d'un arbre. Oui, et ça a fait même les journaux locaux. Là, il ne reste plus rien de la voiture.
Il aurait pu en mourir.
Il aurait dû en mourir. Okay. Mais heureusement pour lui, puis ce n'est pas une leçon à retenir, il n'était pas attaché. Il n'y avait pas sa ceinture de sécurité.
Il a sauvé la vie.
Il a été expulsé du véhicule et ça lui a sauvé la vie. Et pendant son séjour à l'hôpital, il s'est dit peut-être qu'une autre carrière serait plus prudente. Et de là est venue l'idée d'étudier le cinéma, qui était une autre de ses passions. Et bon, là, il est allé à l'école de cinéma, il a réalisé 2 films avant d'avoir l'idée d'écrire Star Wars. Puis en fait, c'est un refus qui l'a amené à réaliser Star Wars parce que ce qu'il a voulu faire, c'est une adaptation de Flash Gordon.
Okay, le super-héros. Là.
Oui, qu'il aimait beaucoup. Les feuilletons, lorsqu'il était jeune, il allait voir ça au cinéma. Et les producteurs de Flash Gordon ont dit « Non, t'es qui toi? on va le faire nous-mêmes. »
Un film de super-héros, ça ne marchera jamais.
C'est ça!
Il s'est reviré de bord et il a dit « Bon, ben, parfait, je vais l'écrire moi-même, mon histoire de l'espace. Je n'ai pas besoin de Flash Gordon. Je peux inventer des personnages. » Et donc, le 15 mars 1976, la première version finale du scénario, intitulée « The Adventures of Luke Starkiller Has Taken from the Journal of the Wills, Saga 1 Star Wars, était écrite. Et malgré ça, bon, il travaillait, il était en étroite collaboration avec Francis Ford Coppola, que l'on connaît, et les deux avaient beaucoup de projets en chantier, puis Lucas devait, à ce moment-là, réaliser Apocalypse Now.
C'est ça, Francisco. OK, oui.
Oui, et que Coppola voulait simplement produire et non réaliser. Mais Lucas s'est dit, je sais pas, aller dans les Philippines avec une équipe de cinéma américaine, filmer un film sur la guerre du Vietnam, c'est peut-être pas la chose la plus prudente du monde. Et il a dit à Coppola, écoute, je pense que c'est peut-être pas une bonne idée, je vais plutôt aller réaliser mon film de l'espace.
Hein? Bonne idée.
Oui. Puis en même temps, on sait ce qui est arrivé à Coppola dans les Philippines. Là,
c'était vraiment l'enfer.
C'était effectivement une bonne décision. Mais Star Wars a lui aussi été un tournage très, très difficile. Dès qu'ils sont arrivés en Tunisie, il y a eu une tempête qui a détruit les décors complètement.
Oh my God.
Ils ont dû se revirer de bord. Et après la pause, je vais vous raconter les autres moments difficiles qui ont été vécus pendant le tournage.
Exactement. Ça nous fait plaisir. On va aller en chanson, en fait, avec Tones and I qui nous chante Dance Monkey. Et on continue de parler de la saga Star Wars, les dessous, les tournages et les difficultés que George Lucas a rencontrées avec notre prof de cinéma, Philippe Lemieux. Il y a Maud Grégoire qui nous écrit « J'ai jamais écouté un Star Wars, mais je trouve l'histoire de Philippe très intéressante. » Ça doit être un méchant bon prof. Effectivement, bon.
Oui.
Mais juste pour la petite histoire, il est quand même habillé en lutin ce matin.
Oui!
Ça s'appelle le Star Wars de Noël.
Oui, je suis dans l'esprit des fêtes.
Mary Force.
Voilà.
On parle de difficultés de tournage que George Lucas a rencontrées lors du tournage du tout premier Star Wars.
Oui, bien écoute, une petite anecdote cocasse, c'est qu'on sait tous qu'à l'intérieur de ces 3PO, il y a un acteur qui s'appelle Anthony Daniels. Oui.
Qui prend sa retraite, là, ça a été annoncé cette semaine.
Il a 73 ans aujourd'hui. Il a interprété dans les 9 films ce personnage-là.
Ah oui?
Oui, tout à fait. Mais ce que moins de gens savent, c'est qu'à l'intérieur de R2-D2 aussi, par moment, il y avait un être humain, une personne de petite taille qui s'appelle Kenny Baker. Et ça, c'est à l'intention de Lucas pour humaniser le robot, qu'il ne soit pas tout le temps mécanique dans ses mouvements. Alors, quand R2-D2 danse ou se dandine, c'est un être humain qui est à l'intérieur et qui manifeste ce mouvement-là. Mais ce qui est drôle, c'est que, bon, imaginez, ils sont en Tunisie, il fait 1000 degrés au soleil.
Il fait chaud là-dedans.
Il est là-dedans. Puis lui, il raconte en entrevue qu'à un moment donné, arrive l'heure du dîner. Alors, Lucas, il call cut, tout le monde va dîner et tout le monde part.
Ah! Ils n'ont pas oublié.
Et le laisse dans le robot.
Ben non, il y aurait.
Oui.
Hey, ça, c'est une mijoteuse.
D'un coup de chaleur, oui, certain. Là, il cognait sur la surface. Écoutez, les gars, faudrait me sortir de là parce que là, j'ai des problèmes.
En fait, tu faisais.
Puis on l'imagine pas, mais être dans ces 3 PO, c'est pas évident non plus. Puis en termes de vision périphérique, c'est rien du tout. Fait que ce qu'on voit pas dans le film, c'est toutes les fois où il tombe. Puis quand on tombe, on veut pas se faire mal. Oui. On essaie d'absorber notre
choc.
Oui, c'est
mains.
Ça. Mais là, lui, c'est possible de faire ça. Puis le costume brisait, puis il tombait. Puis c'était très compliqué. Là,
mais l'acteur Anthony Daniels, il a sorti une biographie en octobre dernier où justement il explique à quel point c'était vraiment difficile.
Ah, il était partout.
C'était ses 3 PO, là, lui.
Oui, exact. C'est ça.
Absolument.
Philippe, parle-nous de Carrie Fisher. Elle apparaît dans le film. Ils ont réussi à tourner des scènes avant son décès, tout ça. Ça passe-tu dans le film ou ça passe pas?
Ça passe bien. Ça passe bien. Et ça avait été annoncé, en fait, ils n'ont pas tourné des scènes pour ce film-là, c'est qu'ils ont repris tout ce qui avait été tourné avec elle lors du tournage des deux précédents films.
OK.
Et ils vont, au pire, tu sais, la découper, l'enlever de l'image dans laquelle elle était.
C'est celle qui joue Princesse Léa,
oui,
là, pour situer les gens.
Et qui est décédée après le tournage du Dernier Jedi. Et oui, ça complète bien son histoire, effectivement. Puis c'est bien de l'avoir. Il y a même une scène, parce que sa fille, dans la vraie vie, Billy Lord, joue aussi dans la nouvelle trilogie.
Okay.
Puis il y a une scène où mère et fille s'adressent la parole. Alors, c'est assez intéressant pour ça. Ouais.
Mais là, moi, ce que je veux savoir, c'est l'ascension de Skywalker. Oui. Le nouveau qui sort jeudi à minuit.
Oui.
C'est-tu bon?
Oui. Oui, c'est bon. Je pense qu'on se souvient, lorsque Le Réveil de la Force est sorti, beaucoup de gens ont dit à J.J. Abrams, écoute, tu nous as fait un remake de Star Wars.
Ouais.
Et à l'inverse, quand Le Dernier Jedi est sorti, ça a été un film dont on a beaucoup discuté, soit que vous étiez dans le camp, c'est bon parce qu'il a changé des choses, il a osé, il a été nouveau, ou vous n'avez pas aimé ça parce que, bon, là, on revient à J.J. Abrams comme réalisateur. Alors, il est arrivé ce à quoi on peut s'attendre, c'est-à-dire qu'on revient à une structure classique, à du Star Wars que l'on connaît. On sent qu'on a voulu faire plaisir aux fans. Alors, c'est un film dans lequel il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'action. C'est un divertissement extraordinaire. Et surtout, la mission qui n'était pas évidente, c'était de clore tout ça.
Est-ce que tu es sorti en criant « Disney a tué Star Wars »?
Non, pas du tout. Pas du tout. Mais par rapport à ça, là, ça fait 5 films depuis l'acquisition de Lucasfilm par Disney. Ils ont fait une nouvelle trilogie, ils ont fait Solo, ils ont fait Rogue One. Les 5 films sont intimement liés à la création de George Lucas, avec des personnages, des situations que l'on connaît. Là, je pense que ça va être important pour Disney d'aller ailleurs, de faire autre chose dans l'univers de Star Wars. À 1000 ans...
C'est là qu'ils vont jouer le tout pour le tout.
Oui, c'est ça,
là,
vraiment.
Parce que là, on a eu assez... Cette histoire-là, elle est terminée.
C'est réglé.
Lâchez-moi ces personnages-là.
Ah oui.
Hein. Surprenez-moi maintenant. Là. C'est ça qu'il faut faire.
Merci beaucoup, Philippe Lemieux, prof de cinéma au cégep de Saint-Jérôme. C'est notre prof de cinéma préféré, on va se le dire.
T'en connais combien des profs de cinéma, Marc?
J'en connais un. J'en connais deux, en fait. J'en connais deux, mais t'es un excellent prof. J'en suis persuadé, mon fils.